France Musique.
Marguerite Yourcenar, accordez-moi la possibilité de m'égarer. Je ne suis jamais en état d'indifférence, mais je le sais, ma voix et mes attitudes plaident contre moi. J'ai une certaine aptitude à poser les mots et à relever la tête. Vieux réflexe de vieille dame qui s'est forgé une carapace d'une lectrice de toujours, qui vit avec des fantômes. Je vous semble peut-être étrangère au quotidien et réfugiée dans une forme de superbe. Pourtant, je suis sensible au rien et au tout. Sans doute me faut-il revenir à mon cher Zénon dans l'œuvre noire que je considère comme mon meilleur roman. Je suis un, mais des multitudes sont en moi. Accordez-moi la possibilité de m'égarer. Le 22 janvier 1981, Marguerite Yourcenar est reçue à l'Académie française par un homme qui a travaillé sans relâche à cette reconnaissance. Sans la connaître personnellement, il sait tout de son œuvre. Dans son éblouissante réponse à la récipiendaire, Jean d'Ormesson prononce à de multiples reprises ce mot alors incongru sous la coupole « Madame ». Le mot banni, interdit, repoussé depuis ses plus lointaines origines, il y a 350 ans. Marguerite Yourcenar ne manque alors pas de préciser dans son discours d'entrée que c'est vers le milieu du XIXe siècle que la littérature est devenue en France, tout ensemble, une vocation et une profession pour quelques femmes. Cet état de fait est sans doute trop nouveau alors pour attirer l'attention d'une compagnie comme celle de l'Académie française. Marguerite Yourcenar cite ainsi Madame de Staël, sans doute inéligible par ses ascendants suisses et son mariage suédois, qui dut se contenter alors d'être un des meilleurs esprits du siècle. Puis George Sand, qui fit scandale par la turbulence de sa vie, par la générosité même de ses émotions. Une femme si admirablement femme. Enfin, Colette, celle qui déclarait qu'une femme ne rend pas visite à des hommes pour solliciter leur voix. Un avis que Marguerite Yourcenar partage, ne l'ayant pas fait elle-même. L'élection de Marguerite Yourcenar provoque alors une véritable tempête sous la coupole. L'auteur des Mémoires d'Adrien est la première femme à être élue à l'Académie française. Et l'on en fait un véritable événement. Elle n'aime pas les événements, ceux qu'on lit le matin dans le journal et que l'on oublie le lendemain. Mais Marguerite Yourcenar accepte, car elle sait qu'elle est défendue par ceux qui connaissent et admirent son œuvre. Ce ne sont d'ailleurs pas ceux qui la connaissent qui votent pour elle. Elle trouve beau qu'ils aient pris ce risque, parfois au prix d'insultes. Elle est touchée par cet acte de bravoure. Honorée. C'est la raison pour laquelle elle accepte. Certains ne se sont sans doute pas remis de cet ébranlement des colonnes du temple. Au moment de l'annonce de son élection, Marguerite Yourcenar est à bord du paquebot Le Mermoz qui quitte Miami pour les îles Caraïbes. Jerry Wilson, le dernier compagnon, l'accompagne. Il note alors dans ses carnets: quand je lui ai appris qu'elle venait d'être élue à l'Académie française, cela n'a pas provoqué chez elle beaucoup de réactions. Les télégrammes affluent, le capitaine fait hisser le drapeau français, offre le champagne. Mais Marguerite Yourcenar est peu démonstrative. Une manière de garder en elle les joies d'une telle reconnaissance. La seule leçon que puisse nous donner cette vie si éloignée de la nôtre, c'est que la gloire, après tout, n'est qu'une concession temporaire. Pendant les quelques mois qui la séparent de la réception officielle, Marguerite Yourcenar va écrire, voyager, se livrer aux formalités d'usage, préparer son discours de réception. Le 1er juin 1980, elle se rend à Boston, à la librairie française, où elle est promue, officier de la Légion d'honneur. Elle souligne avec humour, dans le journal télévisé du 7 juin 1980, qu'il y a un moment où les honneurs vous rattrapent, on a beau courir. À l'instar de son personnage Zénon dans l'œuvre noire, Marguerite Yourcenar se faufile à travers les préjugés de son temps, mais sans jamais s'égarer. Sinon, s'enfoncer dans une rêverie illuminée par la musique, comme celle de l'orgue dans l'œuvre noire, présent dès Bruges, on le retrouve à Cologne, dans les intérieurs bourgeois. À l'intimité du cadre domestique s'oppose plus tard la puissance des grandes orgues d'église que Zénon va écouter à Saint-Donatien. Zénon, que l'auteur estime comme un frère, celui qui, comme elle, recherche la lumière. Zénon, médecin et chirurgien de la Renaissance, philosophe, alchimiste, est un homme athée, au corps et à la pensée libre. Épris de savoir et de liberté, après avoir parcouru le monde, il revient dans sa patrie, Bruges. Médecin, il fait le bien, mais il est condamné au bûcher pour ses opinions religieuses. Marguerite Yourcenar puise alors dans la peinture flamande pour nourrir ses romans. Dans les œuvres de Bruegel, elle cherche une substance plus qu'une image ou des détails d'une image. Puis elle s'immerge dans la musique du compositeur de la Renaissance, Roland de Lassus. Ainsi, écrit-elle, « Toute la nuit, couché une dernière fois sur son lit de sa cellule de Saint-Côme, Zénon se joie et rejoint un certain motet de Roland de Lassus. » Luther n'affirme-t-il pas le premier que c'est la musique qui donne vie aux paroles ? Pour entendre la musique, il faut faire taire le bruit du siècle. Alors seulement celle-ci peut s'élancer et user de ce pouvoir si spécifique, transporté en illusion dans la béatitude parfaite. Mais cette illusion superbe est un leurre, pire qu'un mirage, un piège auquel tout succombe. Ainsi, dans La Petite Sirène, le libretto d'opéra écrit en 1942 d'après le conte d'Andersen, Marguerite Yourcenar confesse, en parlant de la musique, qu'ailleurs, elle est un piège auquel se prennent même les sirènes. Pour retrouver la musique authentique, celle que rien ne peut briser, il faut renoncer à l'incarnation musicale, se fondre dans la voix naturelle, celle qui ignore le tonnerre humain, dit-elle. Sortir du temps historique, non plus un instant en pensée, mais par une rencontre physique avec la nature. C'est le chant des baleines que l'écrivain veut entendre sur le texte de La Petite Sirène, non des signes sur une portée. Une musique, dit-elle, si merveilleuse et si profondément naturelle. En 1951, Marguerite Yourcenar publie son chef-d'œuvre, Les Mémoires d'Adrien. À l'âge de 19 ans, elle visite la villa Adriana. Cette résidence de villégiature, bâtie au IIe siècle par l'empereur Adrien à Tivoli, touche profondément la jeune fille, alors accompagnée de son père. Marguerite Yourcenar y ressent intensément la présence de l'empereur et décide dès lors d'entamer des recherches approfondies sur sa vie. Elle découvre les nombreuses réformes entreprises par l'empereur Adrien, sa politique de grands travaux, le long travail de pacification de l'Empire, son histoire d'amour passionnée et tumultueuse avec le jeune Antinoüs. Cet empereur atypique, cet homme d'exception, de grandeur, de courage et de lucidité. Cet homme seul, selon Flaubert, nourrit les jeunes années de Marguerite Yourcenar, de recherche et d'écriture. Elle envisage alors un dialogue avec l'empereur Adrien, puis un essai. Mais elle abandonne ses premiers feuillets qui s'endorment dans une malle pour de nombreuses années. Celui dont elle avoue connaître mieux la vie que celle de son propre père renaît 20 ans plus tard à la faveur de la découverte de cette vieille malle abandonnée et oubliée. Marguerite Yourcenar devient dès lors le porte-parole de la culture grecque et latine qui était celle de l'empereur au IIe siècle. Elle croit encore à la possibilité d'une reconstruction du monde, à un monde meilleur. L'œuvre noire brisera cette espérance. Adrien, Zénon, Nathanaël de l'Homme obscur, trois hommes en quête de liberté et de lucidité dans l'œuvre de Marguerite Yourcenar. Pour eux, avec eux, elle mène une même réflexion sur son chemin intérieur, la divine lucidité. telle la flûte du berger, ne brisons pas le silence des paroles d'Adrien. Petite âme, âme tendre et flottante, compagne de mon corps qui fut ton hôte, tu vas descendre dans ces lieux pâles, durs et nus, où tu devras renoncer au jeu d'autrefois. Un instant encore, regardons ensemble les rives familières, les objets que sans doute nous ne reverrons plus. Tâchons d'entrer dans la mort, les yeux ouverts.
À réécouter sur francemusique.fr.